Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Au Royaume-Uni, après l'annonce de la suspension du Parlement britannique pendant plus d'un mois, les députés europhiles fourbissent leurs armes pour empêcher une sortie de l'UE sans accord. En l'occurrence, la bataille contre le no deal se fera devant les tribunaux.
En Italie, le mouvement anti-système 5 étoiles et le Parti démocrate de centre-gauche ont fini par s'entendre hier pour former un gouvernement sous la houlette du Premier ministre sortant Giuseppe Conte.
Oui, sauf que des incertitudes demeurent sur sa mise en place et qui n'interviendra que dans les prochains jours. Les discussions entre Moscou et Kiev sur un échange de prisonniers seraient-elles en train de se concrétiser après qu'un tribunal ukrainien a ordonné hier la libération sous caution du journaliste russe Kirill Vyshinsky. Ce matin, on a appris que le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov aurait été transféré de sa prison dans la région arctique à un centre de détention à Moscou.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, le taux de défiscalisation en France applicable aux entreprises qui consacrent plus de 2 millions d'euros par an au mécénat passera de 60 à 40%.
Annonce faite ce matin par le secrétaire d'État Gabriel Attal. Un coup de rabot dans cette niche fiscale qui à terme devrait rapporter quelques 80 millions d'euros d'économies par an. Enfin, dans une vingtaine de minutes, et comme chaque jeudi, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Oui, il sera question de réchauffement climatique et de ce combat qu'il mène depuis plusieurs décennies déjà en donnant de la voix. Il est membre du GIEC, il est paléoclimatologue et glaciologue. Jean Jouzel est l'invité de la grande table des idées aujourd'hui avec Philippe Torreton qui restera avec nous pour la discussion.
Merci et à tout à l'heure. Faut-il parler de coup d'État ou à tout le moins de crime de lèse-démocratie, seule certitude. La décision hier du Premier ministre britannique de congédier les parlementaires pendant près de 5 semaines en pleine turbulence autour du Brexit a déclenché une véritable vague d'indignation à travers tout le Royaume-Uni. Dès hier soir, des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs grandes villes du pays et ce matin, une pétition lancée contre la décision de Boris Johnson avoisinait déjà les quasi 1,5 million de signatures. Alors pour être tout à fait exact, précisons tout de même que la décision de renvoyer les parlementaires chez eux relève officiellement de la routine constitutionnelle. Le Parlement devait, quoi qu'il en soit, être suspendu pour 3 semaines pour l'habituelle saison des congrès des partis politiques. Sauf qu'en choisissant volontairement d'allonger de quelques jours cette pause parlementaire, eh bien, Boris Johnson réduit d'autant la possibilité offerte aux députés anti-Brexit de s'organiser pour empêcher une sortie de l'UE sans accord. Et c'est la raison pour laquelle l'opposition dénonce aujourd'hui une manœuvre dilatoire destinée à les museler. En clair, ils ne pourront pas débattre du Brexit avant le 21 octobre, soit 10 jours seulement avant l'échéance. Même du côté de la majorité conservatrice, cette fois-ci, les réactions n'en sont pas moins vives. Le président de la Chambre des communes parle d'un affront à la Constitution. Enfin, ce matin, la très populaire chef du parti conservateur écossais a, elle, carrément démissionné. Antoine Gignoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Alors, dans cette crise constitutionnelle et politique, quelles sont les différentes options sur la table, Antoine?
Eh bien, tout dépend, en fait, de l'ampleur de la fronde au sein du camp conservateur. Vous venez de le dire, Ruth Davidson, la chef des conservateurs écossais, annonce son départ, mais il y a aussi une flopée de critiques pour le gouvernement. Ken Clark, le doyen des députés, juge la conduite de Boris Johnson scandaleuse. David Lidington, ex-ministre de Theresa May, s'insurge lui aussi contre la décision du Premier ministre de suspendre le Parlement, tout comme Sam Gyimah, qui a lui aussi quitté l'équipe gouvernementale à cause du Brexit. Si l'idée venait d'un responsable de gauche comme Corbyn, dit-il, on le traiterait de trotskiste. Pour mesurer l'équilibre des forces en présence, il va tout de même falloir attendre mardi, avec la réouverture du Parlement. Plusieurs députés, dont Philip Hammond, l'ancien ministre des Finances, qui a rejoint les rebelles, vont déposer des projets de loi pour essayer d'interdire une sortie sans accord de l'Union européenne. Ils veulent en fait obliger le Premier ministre à demander une extension de l'article 50 et donc un nouveau report du Brexit. En parallèle, l'opposition prépare de son côté une motion de défiance pour essayer de faire tomber le gouvernement. Reste enfin la possibilité qu'une action en justice bloque totalement le processus de sortie de l'Union européenne. Plusieurs personnalités comme l'ancien Premier ministre John Major ou la femme d'affaires Gina Miller, qui avait déjà embauché des avocats en 2016, annoncent qu'ils vont saisir les tribunaux. Dans l'intervalle, le gouvernement n'a qu'une seule stratégie, il fait bloc et il s'appuie sur sa base électorale, sur les militants qui ont voté pour le Brexit. Les derniers sondages créditent d'ailleurs le Parti conservateur de 34% d'opinion favorable. C'est 12 points de plus que les travaillistes et c'est surtout le score le plus haut depuis 6 mois.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. Et toujours s'agissant de cette crise britannique, je vous propose à présent d'écouter la réaction ce matin de Nicolas Sarkozy, invité à s'exprimer sur les grands enjeux géopolitiques à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France, le nouveau nom donné à l'université d'été du MEDEF. L'ancien président français voit d'abord dans ce Brexit un contresens historique et puis il demande aux nouveaux dirigeants européens de l'imagination pour éviter la catastrophe.
L'idée européenne a 70 ans, elle a vieilli. Parce que nous avons des institutions qui ont été créées pour 6, pour 9, pour 13, qui ne peuvent plus fonctionner. Et qui partent d'une première idée, il faut bien que vous le mettiez dans la tête, c'est que l'Europe, au singulier, n'existera plus. Il n'y a pas une Europe, il y a des Europes. Et ces Europes doivent fonctionner avec des structures, un idéal et des procédures différentes. Mais il faut prendre des risques. Et pour moi, peut-être le plus important aujourd'hui, et j'espère que la France le fera, c'est tirer les conséquences de l'impossibilité de continuer comme cela et de mettre un nouveau traité sur la table et qui nous permettrait de dire à quand même 62 ou 63 millions d'Anglais, vous avez dit non à l'Europe d'hier, est-ce que vous voulez construire l'Europe de demain avec nous?
Donc un nouveau traité.
Un nouveau traité et un nouveau référendum, mais pas pour voter sur la même question, mais pour se tourner vers l'avenir. Est-ce que notre génération est capable d'être aussi imaginative que la génération des bâtisseurs de l'idéal européen? C'est quand même la question posée. Alors on me dit, ah oui, mais c'est très difficile un traité. Ah oui. Enfin, la pagaille auquel on assiste, je ne sais pas que ça soit très facile.
Nicolas Sarkozy, donc au micro d'Anne Fauquemberg. En Italie, Matteo Salvini a bel et bien perdu son pari. Le patron de la Ligue d'extrême droite qui, en dynamitant la précédente coalition avec son partenaire, le mouvement 5 étoiles, espérait sans doute forcer des élections anticipées pour prendre le pouvoir, aura finalement sous-estimé la logique parlementaire. Hier, après plusieurs jours de tractation, le mouvement anti-système et le Parti démocrate sont en effet parvenus à un accord pour former une nouvelle majorité de gouvernement sous la houlette du Premier ministre sortant, Giuseppe Conte, lequel doit à présent soumettre au président une liste de ministres. Et ce ne sera sans doute pas d'ailleurs le plus simple, étant entendu qu'il se retrouve dans la situation sans précédent de devoir former un gouvernement avec une formation, en l'occurrence le Parti démocrate, qu'il y a quelques semaines encore à peine était le principal parti d'opposition. Isabelle Labéry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial en Italie. On le voit, si le chapitre de la crise politique italienne s'est certes refermé hier, il demeure, Isabelle, encore de très nombreuses incertitudes.
Effectivement, il y a d'abord, vous le disiez, la question de la répartition des portefeuilles ministériels, une phase de discussion qui risque d'être assez mouvementée, chacun souhaitant pousser ses feux. Les consultations vont d'ailleurs commencer très vite, hein, dès cet après-midi, pour tenter de régler les points de fixation, les susceptibilités personnelles. La presse italienne fait déjà ses pronostics. Elle voit Di Maio à la défense, l'intérieur et l'économie pour les démocrates, mais tout cela reste bien sûr à confirmer. Il faudra aussi faire un programme. On connaît les points de consensus, ils sont essentiellement économiques. Giuseppe Conte parlait tout à l'heure d'un pays moins corrompu, où tout le monde paierait ses impôts, où la justice serait plus juste et plus efficace. Mais d'autres sujets fracturent profondément cette coalition. Quelle position va-t-elle prendre, par exemple, sur la question migratoire? Que faire des décrets Salvini qui criminalisent les ONG et les empêchent d'entrer dans les ports italiens? Les 5 étoiles les ont votés. Les démocrates n'en veulent pas. Pour l'instant, le nouveau président du Conseil laisse de côté ses divergences. Il promet un gouvernement du changement qui remettra l'Italie sur les rails, critiquant en creux l'action de Matteo Salvini.
Merci.
Je vais construire un gouvernement qui se focalisera pleinement sur l'intérêt des citoyens et qui renforcera la crédibilité et le prestige que notre pays a déjà sur la scène internationale.
Di cui il nostro paese già attualmente gode a livello internazionale.
C'est le moment du courage, le moment de la détermination. Le courage de faire un pays meilleur et la détermination de poursuivre cet objectif sans se laisser ralentir par les obstacles.
Senza lasciarsi frenare dagli ostacoli.
Alors le premier sujet de fond, la priorité de ce nouveau gouvernement, a dit Giuseppe Conte, c'est la préparation du budget. Le pays doit en effet impérativement trouver 23 milliards d'euros pour éviter une hausse de la TVA en janvier prochain.
Merci Isabelle Labéry en direct de Turin. Au Yémen, 24 heures seulement après s'être vu infliger une sévère défaite, les séparatistes du sud du pays ont finalement repris le contrôle de la ville d'Aden. C'est là que le gouvernement avait établi son siège provisoire depuis la conquête de la capitale Sanaa par les rebelles houssis venus eux du nord. Précisons d'ailleurs qu'initialement les forces gouvernementales et les séparatistes du sud combattaient ensemble les rebelles houssis jusqu'à ce que leur relation se détériore il y a 2 ans. Ce matin, le gouvernement accuse les Émirats d'avoir bombardé ses troupes dans le sud du pays. Seule certitude, la reprise d'Aden ouvre donc un deuxième front dans cette guerre qui ravage le pays depuis 2014. La bande de Gaza, une nouvelle fois prise pour cible par les salafistes, l'enclave palestinienne est en état d'alerte depuis hier après des attaques suicides qui ont visé plusieurs checkpoints du Hamas. 3 membres des forces de sécurité du mouvement islamiste ont été tués dans ces attentats, toujours non revendiqués. En revanche, c'est vrai que des salafistes locaux qui s'inspirent notamment des méthodes de l'organisation État islamique sont aujourd'hui soupçonnés d'être derrière ces attaques, lesquelles interviennent dans un contexte qui plus est très particulier pour la bande de Gaza. Les explications à Ramallah de la correspondante de RFI pour France Culture, Marine Vlaovic.
Attentat suicide. Après des dizaines d'heures de tergiversation, le mot a enfin été lâché par le Hamas pour qualifier les attaques visant 2 barrages du mouvement islamiste dans la ville de Gaza mardi soir. 2 attentats visiblement coordonnés et perpétrés par des kamikazes en moto. 3 policiers ont perdu la vie, 2 autres ont été blessés. Le mouvement islamiste, qui a placé la bande de Gaza en état d'alerte, a arrêté 10 personnes hier soir. Officiellement, aucune organisation n'est pointée du doigt. Mais tous les regards se tournent vers les groupuscules salafistes locaux, s'inspirant des méthodes de l'État islamique et proches de la branche égyptienne de Daesh qui opère dans le Sinaï voisin. Ce n'est pas la première fois que le Hamas, qui gouverne d'une main de fer l'enclave palestinienne, fait face à ce genre d'attaque, mais ces attentats ont de quoi déstabiliser encore un peu plus une bande de Gaza exsangue, sous blocus israélien depuis 12 ans et en proie à une crise humanitaire et économique sans précédent. Alors que les incidents avec Israël se multiplient, à l'approche des élections législatives de septembre, les factions palestiniennes sont bien décidées à faire pression sur l'État hébreu pour obtenir des concessions. Hier soir encore, des roquettes ont été tirées depuis l'enclave pour la 6e fois en 2 semaines seulement. En représailles, l'armée israélienne bombarde des postes militaires du Hamas.
C'est aujourd'hui que le nouveau parlement ukrainien, largement dominé par le parti du président Volodymyr Zelensky, se réunit pour la première fois avec la promesse d'adopter immédiatement plusieurs dizaines de lois et surtout d'investir rapidement un gouvernement. Toujours s'agissant de l'Ukraine, des centaines de personnes se sont par ailleurs rassemblées hier à Kiev pour rendre hommage aux soldats ukrainiens tués en 2014 dans l'une des batailles les plus meurtrières de la guerre avec les séparatistes pro-russes dans l'est du pays. C'est d'ailleurs cette défaite qui avait poussé le président de l'époque, Petro Poroshenko, à signer une première série d'accords de paix à Minsk. Accords qui ont certes permis de considérablement réduire les affrontements sans y mettre complètement fin, mais pas de parvenir à un règlement politique de ce conflit. Enfin, ultime développement, toujours dans le contexte de cette guerre qui reste, rappelons-le, la plus importante guerre en Europe depuis celle dans les Balkans, avec près de 13 000 morts depuis son déclenchement en 2014. Ce matin, on a appris que le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, condamné en Russie pour terrorisme après s'être opposé à l'annexion de la Crimée, aurait été transféré de sa prison dans la région arctique à un centre de détention à Moscou. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour Thomas et bonjour à tous.
Alors, ce possible transfert interroge au moment même où, on le sait, la Russie et l'Ukraine négocient un possible échange de prisonniers. Et d'ailleurs, hier, hasard du calendrier ou pas, la justice ukrainienne a, elle, ordonné la libération sous caution d'un journaliste russe, Cyril Vyshinsky, arrêté l'année dernière, accusé de soutenir les séparatistes pro-russes.
Oui Thomas, il faut être prudent. L'information livrée par les 2 agences russes, Interfax et TASS, n'a pas été confirmée, ni par l'avocat de Oleg Sentsov, Dmitri Dinze, ni par l'administration pénitentiaire. Moyennant quoi, les interfaces russo-ukrainiennes ont rarement été aussi pragmatiques que depuis l'élection de Volodymyr Zelensky, qui le 19 juillet dernier ne proposait rien d'autre à Vladimir Poutine que d'échanger Vyshinsky contre Sentsov. Kiev et Moscou sont convenus également d'un programme d'échange de prisonniers, comme ce fut le cas d'ailleurs il y a 2 semaines. Une 2e vague de libération imminente n'incluait pas Oleg Sentsov. Mais Michel Etchaninov est fondateur de l'association Les Nouveaux Dissidents.
D'après le rédacteur en chef de la radio russe Écho de Moscou, ce matin, Emmanuel Macron aurait peut-être appelé tout récemment Vladimir Poutine pour lui demander que Sentsov, lui aussi, fasse partie de l'échange de prisonniers.
Et Michel Etchaninov, au chevet d'Oleg Sentsov, notamment lors de sa longue grève de la faim l'année dernière, de relever des éléments de contexte qui pourraient faciliter la libération du cinéaste ukrainien originaire de Crimée, la visite à Brégançon du président russe le 21 août dernier, puis le discours d'Emmanuel Macron avant-hier devant les ambassadeurs.
Emmanuel Macron lance une nouvelle politique en direction de la Russie, beaucoup plus accommodante, disons, avec tous les dangers que cela implique. Mais en échange, Emmanuel Macron, qui a toujours été très sensible au cas de Oleg Sentsov et au cas des prisonniers ukrainiens en Russie, a demandé que la Russie avance sur ce sujet et que ces prisonniers soient enfin libérés. Donc on est dans un contexte d'un côté d'ouverture, de l'autre côté dans une négociation, et l'échange de prisonniers qui va peut-être avoir lieu dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent fait partie, c'est évident, de ce grand poker que sont en train de jouer actuellement la France et la Russie.
Et la libération de Oleg Sentsov pourrait offrir à la nouvelle dynamique enclenchée par Emmanuel Macron un éclat qui pourrait satisfaire Vladimir Poutine, confronté, comme on sait, à des protestations et une désaffection d'une ampleur inédite pro-domo.
Merci Mathieu Laurent. C'est ce qu'on appelle un coup de rabot donné à la possibilité pour les entreprises mécènes de défiscaliser leurs dons supérieurs à 2 millions d'euros par an. Cette niche fiscale, en somme, verra passer un taux de défiscalisation de 60 à 40%, annonce faite ce matin par le secrétaire d'État Gabriel Attal dans un entretien au journal Les Échos. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors même si le ministre s'en défend, a priori, il s'agit bien pour le gouvernement, Anne-Laure, de faire des économies.
Oui, ça s'inscrit dans le cadre du ménage fait dans les niches fiscales. Ça va rapporter à l'État 80 millions d'euros par an à partir de 2021. Une somme modeste à l'échelle du budget, il est vrai, mais il n'y a pas de petites économies. Alors 78 grands groupes seront concernés selon les estimations du gouvernement. Pour eux donc, la défiscalisation sera moins avantageuse pour les dons supérieurs à 2 millions d'euros. Tous les dons, sauf ceux accordés aux associations qui s'occupent des plus démunis, les associations dites loi Coluche. Là, la défiscalisation de 60% demeure. Reste que le monde associatif dénonce une mesure qui risque d'engendrer une nouvelle baisse des dons. L'année 2018 a déjà été catastrophique. Pour d'autres raisons, réforme de l'ISF, prélèvement à la source, hausse de la CSG pour les retraités. Alors le secrétaire d'État Gabriel Attal répond que la fiscalité n'est pas le moteur principal du mécénat d'entreprise. Pour preuve, elles sont plus d'une sur trois à ne pas réclamer la déduction fiscale à laquelle elles ont pourtant droit. Mais le bras de fer avec les associations ne fait que commencer. Selon nos informations, plusieurs d'entre elles prévoient déjà de publier une tribune dimanche pour s'élever contre cette décision.
Merci Anne-Laure Jumet. Comme chaque jeudi, à présent, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Première question, madame Dubos. Avant l'été, Agnès Buzyn avait misé sur un étiolement du mouvement de grève dans les services d'accueil des urgences. Visiblement, le pari est perdu. Le nombre de services en grève a doublé cet été. Le seuil de 240 services mobilisés pourrait même être atteint lundi prochain. Près de 5 mois donc après le début de ce mouvement, que proposez-vous ?
Peut-être rappeler que la ministre a ce sujet à cœur dès lors qu'elle est arrivée au ministère, puisque la question des urgences fait partie de son texte de loi qui a été voté au printemps. La question des urgences, c'est comment est-ce que on accompagne les patients en amont des urgences, à avoir cet accès aux soins et éviter d'aller aux urgences. Pendant les urgences, la prise en charge et en aval, la libération, je dirais, de lits dans les différents services pour avoir cette fluidité. Rappeler également qu'il y a eu des mesures financières importantes apportées par la ministre, le dégel de 350 millions d'euros en fin d'année 2018, l'augmentation des tarifs hospitaliers, une première depuis 10 ans, et enfin, avant l'été, 70 millions d'euros qui ont été alloués pour justement recruter et verser cette prime pérenne de 100 euros au personnel des urgences. Et dire que le code travail continue, désengorger les urgences n'est pas qu'une question d'enveloppe financière, c'est aussi de la transformer en sa globalité, c'est tout le texte, l'objectif du texte de le Ma Santé 2022, mais c'est aussi tout le travail qu'elle a confié au docteur Pierre Carly et au député Thomas Meynier, qui sont tous les deux médecins urgentistes, qui connaissent bien cette problématique et qui vont lui faire des propositions dans les prochains jours sur lesquelles elle prendra les décisions de façon à trouver la bonne solution. Rappeler peut-être aussi que les raisons des grèves des urgences sont multiples et de fait différentes. Vous avez des grèves qui sont liées à un manque de personnel dans certains services. Dans d'autres services, des problèmes de locaux qui sont vétustes ou trop petits par rapport au nombre de passages de personnes dans ces urgences. Et chaque situation doit être prise en compte.
Question de Sophie Delpont.
Bonjour Christelle Dubos. Alors, deux gros dossiers sont sur la table de votre ministre pour cette rentrée. Tout d'abord, la loi de bioéthique et puis la réforme des retraites. On va y revenir. Sur la loi de bioéthique, pour commencer, la PMA, la procréation médicalement assistée ouverte à toutes les femmes. L'examen du texte a commencé à l'Assemblée nationale. Trois ministères chapeautent ce texte, celui auquel vous appartenez. Il y a aussi celui de la recherche et celui de la justice, avec donc sur la table un accès au remboursement au nom du principe d'égalité. À propos du statut de la filiation, serait mentionné mère et mère, a précisé la garde des Sceaux. Cette réforme, c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Parmi les points qui ont animé le débat cette semaine, il y a celle du droit des enfants de connaître l'identité du donneur à leur majorité. Que pensez-vous de ce droit? Pour vous, est-ce qu'il doit être acté?
Ce droit est tout à fait légitime quand l'enfant a besoin de se construire au même titre que quand il est adopté. C'est pour ça que la loi bioéthique, permettez-moi juste de rappeler que les lois bioéthiques sont révisées, sont prévues par le législateur pour être révisées de façon périodique et régulière, de façon à travailler sur l'évolution sociétale et aussi l'évolution de la science, sur ce qu'il est possible de faire et ce que l'on interdit de faire. C'est pour ça que la PMA est intégré dans cette révision de loi bioéthique. Et puis, la question en effet d'égalité, vous l'avez dit à juste titre, sur l'accès pour les femmes seules, l'accès pour les couples de femmes, au même titre que pour les couples hétérosexuels. La question sur la filiation, elle est présente, elle sera et elle est présente dans le cadre du débat parlementaire qui s'est ouvert il y a quelques jours, il y a deux jours.
Sur donc ce texte de loi bioéthique, il y a également cette question qui se pose. Êtes-vous favorable, vous, à la possibilité pour les femmes de stocker leurs ovocytes en France, comme cela se fait aussi en Espagne?
Alors, sur la question du stock, je dirais, des ovocytes, ce travail est évidemment posé aussi dans le cadre du débat. Nous souhaitons un débat avec les parlementaires, mais aussi les associations, qu'elles soient pour ou contre la PMA, un débat apaisé, un débat calme. Les idées peuvent s'affirmer, se confronter, mais ce que l'on souhaite, c'est le respect des personnes qui peuvent bénéficier de cette PMA, que ce débat se fasse de façon apaisée, calme et serein et dans le respect des uns et des autres. Donc la question est posée, elle sera elle sera étudiée par l'ensemble des personnes concernées.
Donc pas de position pour l'instant sur le stockage des ovocytes des femmes en France?
Pas de positionnement particulier, c'est dans le cadre du débat et nous devons laisser libre cours au débat aussi.
À propos de la réforme des retraites, Emmanuel Macron a indiqué qu'il préférait un allongement de la durée de cotisation plutôt qu'un âge pivot pour le départ à la retraite fixé à 64 ans. Comment accorder cet allongement de la durée de cotisation avec les situations différentes, notamment autour de la pénibilité et les difficultés des parcours autour de la précarité?
C'est tout l'enjeu de la réforme, cette réforme qui est majeure pour le quinquennat, sur lequel le président s'était engagé dans le cadre de la campagne présidentielle sur un système plus juste, je dirais, plus lisible quand vous avez actuellement 42 régimes où vous avez des inégalités, quelle que soit la situation à salaire et travail égal, vous avez des retraites qui sont différentes. On veut un système également qui permette notre solidarité entre les générations, c'est ce qui fait notre force, notre système, mais aussi un système qui soit à l'équilibre en 2025. Le rapport de Jean-Paul Delevoye prévoit ces deux options, soit l'âge pivot, soit une durée de cotisation. Le président souhaite que les Français soient consultés sur ce sujet. Ils le seront puisque la consultation va s'ouvrir dans quelques jours avec les partenaires sociaux et les Français. Le Premier ministre annoncera les modalités de cette consultation.
Et pensez-vous qu'il soit nécessaire de nommer ministre Jean-Paul Delevoye, dont vous avez mentionné le nom à l'instant, jusqu'à présent haut commissaire en charge de ce dossier des retraites, pour chapeauter cette réforme?
Écoutez, en tant que haut commissaire, il a fait un très bon travail sur ce rapport. C'est pas à moi de décider s'il doit devenir ministre. Il y a un Premier ministre, il y a un président qui vont se positionner là-dessus. Ça dépendra aussi de l'ampleur qu'elles vont donner sur ce texte de loi.
Parmi les dossiers dont vous êtes en charge, Christelle Dubos, il y a le revenu universel d'activité. Oui. Où en est la consultation et sur quelle modalité?
Et ce sera la dernière question.
Peut-être rapidement, ce revenu universel d'activité, c'est quoi? C'est une remise à plat de notre système d'aide sociale pour le rendre plus lisible, plus accessible et plus juste, et surtout pour lutter contre la pauvreté en regroupant un maximum de prestations et d'aides sociales. Nous en sommes où? Nous avons lancé une concertation, là aussi inédite et d'ampleur, le 3 juin dernier, cette concertation avec 70 acteurs, que ce soit les organisations syndicales, patronales, les associations, les bénéficiaires aussi, de façon à ce qu'on puisse construire ensemble cette nouvelle prestation qui, pour moi, n'a qu'un seul objectif, c'est lutter contre la pauvreté. La concertation se continue. Nous allons lancer la consultation citoyenne avec une plateforme, des jurys citoyens, des territoires spécifiques où seront amenés à s'exprimer des acteurs, des bénéficiaires eux-mêmes. Et puis, en parallèle, nous lançons la concertation sur le service public de l'insertion parce que nous devons aussi aussi accompagner vers une reprise d'emploi quand ils le peuvent, les bénéficiaires.
Merci Christelle Dubos, secrétaire d'État, je le rappelle, auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Sophie Delpont. On termine avec un mot de météo. Le ciel de cet après-midi sera le plus souvent bien dégagé, même si sur la façade est du pays en particulier, les éclaircies devront composer avec des passages nuageux porteurs de quelques averses. Quant aux températures, elles afficheront entre 19 et 36 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.